Phil PM. La voix est libre.
Quand j'étais vice-président de la Chambre, j'ai eu beaucoup de réunions avec des leaders de beaucoup des aspects des différentes religions. J'ai beaucoup de réunions avec des rabbis, des chefs des autres religions, des imams aussi.
Voici Luc Lavoie.
Andrew Scheer, ce matin, qui se faisait poser la question de ses fréquentations avec l'Opus Dei, puis a répondu, ben là, écoutez, quand j'étais vice-président de la Chambre, je rencontrais des gens de la communauté juive et musulmane, etc.
Mm-hmm.
Luc est sceptique.
Écoute, est-il membre ou non de l'Opus Dei, je ne le sais pas, mais je veux dire la chose suivante. Non, ne pensez pas que je me fie sur Dan Brown et le livre Da Vinci Code. Je suis parmi un des seuls à ne pas l'avoir lu. J'ai connu l'Opus Dei lorsque j'ai été nommé dans un poste d'ambassadeur en Espagne pour l'exposition 92, alors qu'on était à mettre la dernière main à la construction de ce qui a été la plus grande exposition universelle. À mesure qu'on approchait de la date d'ouverture de l'expo, le personnel canadien augmentait, puis ça devenait opérationnel et tout. Et il y avait l'Opus Dei qui nous surveillait. D'abord, on était en Andalousie.
Oui,
L'Opus Dei,
forts,
c'est né plutôt en Galicia. Hein? Mm. Mais en Andalousie, ils étaient très, très forts.
Mm-mm.
Et là, ils rôdaient autour. Ils sont très gentils, l'Opus Dei. Hein? C'est pas des gens...
Dis-nous, c'est qui l'Opus Dei, Luc?
L'Opus Dei, c'est un
l'armée secrète du pape, peux-tu dire ça?
Jean-Paul II a voulu en faire ça, effectivement. Mais c'était pas ça au départ. Au départ, c'est les forces de droite religieuse dans les années 20 en Espagne, alors que l'Espagne était à quelque part au bord du chaos, puis ça a amené vers la guerre civile. Puis il y avait donc un mouvement communiste très, très fort. Alors, les religieux de droite, eux autres ont dit, nous autres, on n'est pas neutres ici, là, on est du bord là, de la droite. Puis il y a une espèce d'illuminé, escribo des Balaguer, qui a créé cette espèce de vision qui est la suivante. Puis elle est encore vécue dans la réalité en Espagne et en Amérique latine beaucoup. C'est qu'on va infiltrer les élites. On va commencer par recruter les meilleurs. On va infiltrer tout ce qui est élite dans ce gouvernement-là, puis dans toutes les autorités qui dirigent le pays. On va s'installer au pouvoir, puis on va être capable d'appliquer notre pensée qui est ultra-catholique, c'est-à-dire que la Bible, c'est tout ce qui est là, c'est vrai, puis ça finit là, puis on va s'auto-flageller, puis tout ça. Mais au-delà de ça, ce que ça a donné en réalité, c'est que Franco, le grand dictateur Franco, se méfiait de l'Opus Dei parce qu'il n'y avait pas le contrôle dessus. Mais à un moment donné, à la fin des années 50, il s'est retrouvé dans une situation, Franco, où son pays, c'était la première fois qu'on voyait ça, était en faillite, parce qu'il avait pratiqué une politique d'autarcie qui n'avait aucun sens.
Mm.
Et là, il était vraiment en faillite, puis il risquait de perdre le pouvoir. Il s'est tourné vers l'Opus Dei, qui a envoyé ses meilleurs cerveaux. Ils ont pris le contrôle de l'économie espagnole, puis ça a marché. Pendant à peu près les 8 prochaines années, l'Espagne a été dans une croissance fulgurante. Et l'Opus Dei s'est graduellement installé au contrôle, un peu partout. Il y a une université dans la province de Navarre qui appartient à l'Opus Dei. L'Opus Dei s'est ensuite installé en Amérique latine. Quand tu t'en vas à Santiago de Chili, tu vas voir en plein milieu une des routes principales, c'est le boulevard Escribo des Balaguer, du fondateur de l'Opus Dei. Qu'est-ce que ça fait là? C'est parce que notre ami Allende s'est appuyé sur l'Opus Dei.
Même façon. Ou Pinochet?
Pinochet, qu'est-ce que
Pinochet,
je dis? Allende,
oui,
c'était l'autre.
Oui,
Pinochet s'est appuyé sur l'Opus Dei.
Oui.
Alors l'Opus Dei, sa façon de fonctionner, c'est secret. T'es membre, mais c'est secret, secret, secret.
OK, mais ramène-moi ça à Scheer, là. Il me reste 2 minutes, là.
Ah bien, c'est que dans le Parti conservateur, sous Harper, il y en avait beaucoup dans le gouvernement. On le savait, personne ne le disait. Guy Giorno, qui était chief of staff de Stephen Harper, c'était un gars de l'Opus Dei. Quand il faisait sa réunion hebdomadaire des chief of staff des différents ministres, il commençait par une prière. Il y en avait d'autres. Il y en avait un dans le bureau de monsieur Harper aussi, qui s'appelait Mark. Que je ne me souviens pas de son deuxième nom, mais enfin, il y en avait un peu partout autour.
Donc, tu es en train de me dire que si Scheer gagnait l'élection, c'est une forme de tête de pont pour le PSDI au sein du gouvernement canadien?
Je ne veux pas exagérer ça en disant, mais c'est écœurant, ils avaient été... Mais c'est une façon pour l'Opus Dei de se glisser dans la force d'élite. Celui qu'on dit que Scheer a rencontré dans le passé, le Father Dolan, son bureau est ici, on a ce qu'il appelle la prélature de l'Opus Dei, c'est sur Dr. Penfield à Montréal. Je l'ai déjà rencontré, c'est un gentleman et tout, mais c'est des gens extrêmement déterminés qui veulent le pouvoir.
C'est, j'allais dire, c'est des gens, c'est des hommes d'église. C'est
et
des,
de pouvoir. Et de pouvoir. Voilà. Et Jean-Paul II, lui, il se méfiait des jésuites. Okay? D'ailleurs, maintenant, c'est un jésuite qui est pape. Mais Jean-Paul II se méfiait des jésuites, puis il a essayé de transformer l'Opus Dei en son armée secrète à lui. Mmh. Ce qu'il a réussi en partie, puis entre autres, le procès pour canonisation de Escribeau de Balaguer, c'est le plus court de l'histoire de l'Église catholique. En 6 mois, il est passé de bienheureux à saint Escribeau de Balaguer. Alors, c'est un groupe, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai jasé avec beaucoup d'entre eux, mais ce sont des gens qui, d'abord, ils sont très instruits, ils sont, même, ils appartiennent à l'élite.
Très articulés.
Très articulés. Mais très fanatisé par leurs croyances, qui, c'est comme si tu vis ton catholicisme jusqu'à l'extrême. On n'a même pas connu ça dans les années 50-60 au Québec.
Elle c'est dire, du monde qui pensait encore voter conservateur après t'avoir écouté, mon Luc, qui.
Ben, l'Opus Dei, ils font rien d'illégal, puis leur présence en politique, et puis on vient d'apprendre ce matin que Justine McCaffrey, qui est candidate dans Canada Carlton, dans la région d'Ottawa.
Candidate McCaffrey, pour Scheer.
Pour Scheer, et qui est une mondaine bien connue d'Ottawa, qui autrefois avait la plus belle boutique de robes de mariée, je me souviens.
Elle est membre de l'Opus Dei?
Elle est membre de l'Opus Dei.
Ben, il ne recrute pas juste chez les hommes?
Ah non, il recrute partout. Ah bon. Alors, l'Opus Dei, c'est Da Vinci Code, peut-être je vais le lire un jour, il paraît que c'est un très bon livre, mais au-delà de ça, là, c'est ça l'Opus Dei, c'est un groupe d'élite d'extrême droite, qui veut pénétrer tous les milieux où se prennent des décisions. Et ils se servent du Parti conservateur depuis plusieurs années. Harper le savait, mais il est toléré, puis il n'y avait pas de trouble. Mais
oui,
quand même.
Puis Harper n'appartenait pas à l'aile conservatrice
sociale. Pas du tout, du tout. Il ne fréquentait pas l'Église, Harper.
Voilà. OK, faut parler...
Contrairement à Scheer.
Il faut parler un petit peu de Trump.
Oui.
Parce que ses affaires, lui...
Là, ça déboule.
Non, mais là,
déboule.
C'est débile, là.
C'est débile, puis en plus, il a pris une décision hier soir qui est en train de bouleverser le monde, et ça devrait bouleverser le Canada, entre autres.